les investisseurs, ils sont dans un mode particulier de « je vais investir, je veux récupérer mon argent dans 5 ans, je veux avoir doublé ma valorisation de part, etc. » Ils sont beaucoup dans l'aspect croissance économique et valorisation financière. Et autant, moi, je sais le faire sur quelque chose qui existe, autant pour moi, le digital, ça reste très flou et j'ai du mal à me projeter sur un chiffre d'affaires. Je peux espérer que ce soit ça, mais je ne peux pas le promettre.
Bonjour, je suis Chantal Soutarçon. Bienvenue sur Beauty Toaster, le podcast dédié à la cosmétique en mouvement. Je suis ravie de vous retrouver et de vous présenter ce nouvel épisode d'une série d'entretiens consacrés à des invités que vous avez découverts sur Beauty Toaster il y a quelques années. Comment leur marque ou leur entreprise a-t-elle évolué? Ont-ils changé des choses? Quels seront leurs prochains défis au regard de la pandémie qui impacte le monde depuis 2 ans? Aujourd'hui, je redonne la parole à Aude Livoreille-Jampou, la fondatrice des salons de coiffure et de formation Studio Anae. Cette ancienne chimiste de chez L'Oréal milite pour que l'on apprenne à coiffer tous les cheveux ici en France. Car derrière ce sujet, en apparence anecdotique, se cache un véritable enjeu sociétal et je dirais même économique. Lorsque j'avais diffusé notre premier entretien le 7 mars 2018, les choses commençaient à bouger. Alors, 4 ans et une pandémie plus tard, où en est-on? Où en est-elle?
Bonjour Aude.
Bonjour Chantal.
Je suis ravie de te recevoir.
Je suis ravie d'être là.
Hein, ça fait un bail déjà. Il s'en est passé des choses.
Oh oui.
Ouais. Donc on va en parler. Si je te dis 2020.
Alors, 2020, c'est une année pleine de paradoxes. Parce que bien sûr, confinement. J'ai le souvenir très précis d'une très grosse émotion le lundi quand je suis allée fermer le salon.
Ouais.
Vraiment. En plus, j'étais en vidéoconférence avec des clients de consulting. Et je devais tout ranger pour fermer pour un temps indéfini. Donc ça, c'était pas prévu. J'étais très émue. Et puis, après, il y a eu 2 mois de fermeture, réouverture, refermeture en novembre, réouverture en décembre.
Ouais.
Donc c'était une année très particulière. Mais c'est pas une si mauvaise année. Finalement, hein, en toute honnêteté, le salon s'est développé.
Ouais, paradoxalement.
Oui. Oui, ça a donné une autre impulsion. Alors, avant le confinement, on était arrivé à un moment où le salon était reconnu avec énormément de demandes. Et on était presque en train de tomber dans l'excès, puisqu'on essayait de satisfaire à tous les rendez-vous et on chargeait les plannings et... Et il y avait des petits signes qui nous montraient que la qualité commençait à s'en ressentir, avec du retard dans la tenue des horaires de rendez-vous, des clients qui se sentaient moins bien reçus,
ah
quelques
oui.
commentaires. Et je me disais, attention, faut pas tomber dans le... Voilà, faut pas se laisser entraîner là-dessus, faut être très vigilant. Et puis, ben, quand on a repris, quand on a réouvert le 12 mai, on avait la jauge.
Donc, cette jauge
complexe. Donc, on était à une jauge de 6. On avait le droit d'avoir 6 clients.
Dans un salon qui peut recevoir combien de personnes en même temps?
À peu près une dizaine. 10, 12. Après, on a fait, donc, le salon, pour ceux qui connaissent, il a beaucoup d'espace et on veut le garder. Donc, on n'a pas bourré.
Ouais.
Donc, c'est pas non plus un salon où on va mettre, 25 personnes en parallèle et ça ne sera jamais le but. Mais là, on passait quand même, ça faisait une réduction du nombre de rendez-vous par coiffeur. Et il fallait travailler. En plus, on n'avait pas de chevauchement, puisqu'un coiffeur n'avait pas le droit de passer d'un client à l'autre.
Oui.
Donc, il y avait strictement un coiffeur, un client.
Voilà.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a très bien fonctionné. C'est-à-dire que quand on a regardé les chiffres, on n'avait pas moins de chiffres et on avait plus de chiffres. Pourquoi? Parce que la fiche moyenne était plus importante. Et on avait un confort de travail et du coup un confort de réception des clients qui avait nettement augmenté.
Ouais.
Plus de retard, du temps pour passer du temps avec son client, sa cliente, l'écouter, la conseiller, plus de ventes. Alors, je me suis dit, c'est parce que les gens ressortent, ça va se tasser.
Oui, bien sûr.
Et pas du tout. Et pour moi, c'était un signal fort qu'il ne fallait pas négliger. J'ai dit à l'équipe, on ne reviendra pas en arrière. On va rester sur un rythme lent. On ne reviendra pas en arrière. Le but, ce n'est pas la course à l'échalote, ce n'est pas d'aller le plus vite possible et prendre le plus de gens possible. C'est de garder cette qualité parce que finalement, elle va à tout le monde. Et donc, on est resté sur ce rythme lent.
Ah oui, d'accord.
Et oui. Alors après, c'était du coup plus compliqué parce que on avait moins de rendez-vous, donc beaucoup d'attentes. Et finalement, on est arrivé à un point où on avait un mois d'attente sur des rendez-vous.
Ah oui, quand même.
Et un mois d'attente chez le coiffeur, c'est pas raisonnable.
C'est clair. Voilà,
on n'est pas des stars, on n'est pas Vernon François, où on peut attendre.
Le fameux.
Je peux concevoir qu'on attende un rendez-vous avec Vernon François pendant un mois, mais avec Studio Anae, non. Et donc, ça m'a amené à me dire, il est temps d'ouvrir le deuxième.
Ouais.
Et donc aussi d'avoir la lucidité de se dire c'est aussi un moment où il y a pas mal d'endroits dans Paris qui vont se libérer.
Oui.
Il faut pas forcément faut pas avoir trop peur. Et effectivement c'est ce qui s'est fait puisque j'ai visité à partir du mois de novembre des lieux et ça a été acté. Donc le deuxième salon est né en juin 2021. Donc c'est directement la conséquence de 2020 finalement.
Ça m'a c'est fou, hein.
Poussé à passer le pas.
D'accord. Ouais. Et c'est d'autant plus fou qu'effectivement, il y a des peut-être pas chez les coiffeurs, mais il y a beaucoup d'activités effectivement qui ont dû mettre la clé sous la porte à Paris notamment.
Ah oui, il y a des quartiers qui sont sinistrés. Oui, ouais. Tout à fait. Ouais. Et le cinquième en fait partie parce qu'il y a certaines rues du cinquième qui sont tristes. Il y a une dizaine ou une quinzaine de boutiques fermées à la suite les unes des autres. C'est énorme. Donc c'est un moment très particulier. Mais nous, ça nous a aidé à réfléchir sur notre façon de travailler et notre façon de se développer. Ça nous a obligé à reconsidérer la question centrale de la qualité. Et ça nous a encouragé à ouvrir le deuxième, finalement.
Ouais, c'est ça. Et donc, il se situe, j'imagine, dans un autre quartier.
Dans le quatrième.
Dans le quatrième, d'accord.
Dans le sud du Marais, c'est 4 rue du Pont-Louis-Philippe.
D'accord.
C'est magique.
Ouais.
C'est magique. C'est une rue très très belle avec plein d'artisans, des maroquiniers, des parfumeurs, des chocolatiers. Une rue interdite de franchise.
Ah.
Je savais même pas que ça existait.
Ouais, moi non plus.
Et c'est un quartier très passant parce qu'on est juste à côté de la rue de Rivoli. Enfin, la rue débouche sur la rue de Rivoli à une centaine de mètres du BHV. Donc on peut pas plus cœur.
C'est clair.
Ah, c'est le cœur de la ville.
C'est ça.
Le cœur battant, donc rive gauche, rive droite.
Ouais.
On est séparés les deux salons sont séparés par trois ponts.
Oui, ah, bien.
Et on voit toujours le Panthéon des deux côtés.
Ah.
Donc je me suis dit c'est un petit signe.
Ouais, c'est un signe.
Faut continuer à voir le Panthéon.
Oui, oui, c'est ça. c'est le lieu emblématique.
Exactement.
Et du coup, t'as choisi une déco similaire à celle du premier studio parce que le premier studio pour les auditeurs qui ne le connaissent pas, il a un côté très industriel.
Oui. Très urbain,
très
industriel, basé sur la matière, donc la pierre, le bois, le métal.
Donc le brut.
Et donc pas du tout, mais avec toujours la même ligne rouge, c'est la matière, mais c'est une autre matière, c'est le végétal.
Ouais, ok.
Et donc la pièce s'y prêtait, parce que c'était un petit salon très rectiligne, assez simple en fait, sur son plan, très lumineux, il est en angle. Et quand je suis rentrée, j'ai vu tout de suite le vert, le marron, le doré, donc un... quelque chose de très, très végétal, très naturel, très chic. Un peu à l'image aussi du Marais.
Oui.
Mais où, sur lequel, justement, on va retrouver ce lien avec la matière qui me tient à cœur. Parce que pour moi, c'est le lien entre la matière cheveux, la matière humaine et toutes ces matières qui nous entourent. Donc, la pierre, le bois, le métal pour rive gauche, le végétal, la lumière, le côté un peu plus biologique sur la rive droite.
Oui.
Parce que aussi, je veux que les clients aient des expériences différentes selon les lieux. Je ne trouvais pas forcément intéressant de dupliquer.
Oui.
Et puis, ça permet d'offrir autre chose. Voilà. J'aimerais que les clients puissent se dire j'ai essayé le cinquième, j'allais essayer le quatrième. Sachant qu'ils auront la garantie d'avoir la même qualité de service. Ça, c'est très important. Mais des expériences différentes.
D'accord.
Donc deux salons différents.
Ouais. Et je crois aussi que tu as mis en place une journée de formation par mois pour
Exactement.
Tes équipes.
Oui, parce qu'en fait, alors ça existait déjà avant, mais c'est d'autant plus crucial maintenant qu'il y a deux équipes. Parce qu'il y a deux questions, c'est en fait même trois. C'est garder déjà la cohésion, c'est-à-dire qu'effectivement, si on veut avoir la même expérience d'un lieu à un autre, ben, il faut garder la cohésion dans l'ensemble des collaborateurs. Donc leur faire partager les mêmes expériences et pouvoir se parler,
Bien
c'est
sûr.
Très important. Mmh. Le deuxième élément, c'est de continuer à se former tous ensemble. On a 12 coiffeurs, 12 expériences de vie, 12 savoir-faire. Et ça permet de partager ce qu'on sait faire et de faire venir aussi des savoir-faire extérieurs. Donc, inviter ou organiser une formation payante avec des experts. Donc,
ouais, d'accord.
On a eu Alexis Rousseau qui est venu faire une journée, une formation que les gens ont adorée sur la coupe. Il y a d'autres choses qui sont prévues. On a des thèmes. Alors, on liste des thèmes tous ensemble.
Ouais, d'accord.
Le balayage, la coupe... moi, j'aime bien aussi avoir des thèmes un peu différents sur le luxe. C'est quoi l'univers du luxe? On va réfléchir ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et donc, cette journée, c'est une journée où on ferme les salons.
Ouais, ouais.
Voilà, c'est pas sur le temps de repos.
C'est ça.
Parce que je pense que quand on a du temps de repos, il faut se reposer. et on peut pas tout le temps rajouter des choses, en fait. Déjà, le métier de coiffeur, c'est un métier qui est difficile, c'est un métier physique.
C'est ça.
Et on a besoin de temps de respiration. C'est ça que nous a montré la pause Covid. C'était cette respiration. Et donc, je me suis dit, il faut maintenir ce temps de respiration pour aussi ressourcer les énergies, se retrouver tous ensemble, partager des choses, acquérir du savoir, harmoniser nos savoir-faire et se retrouver tous ensemble. Et ça, c'est forcément sur un temps de présence.
Oui, bien sûr.
Donc, on ferme les salons et on se retrouve les deux équipes.
D'accord.
Et ça fait un bien fou à tout le monde.
Oui, j'imagine.
Ouais.
J'imagine. Et si je te dis formation digitale? Le dossier.
Bon, je pleure tout de suite.
Le dossier qui fâche.
Ah, ouais. Non, je pleure pas, mais. Alors, l'idée, c'était la suivante. La formation en tant que telle, la formation tant attendue sur le cheveu frisé crépus, dans les écoles de coiffure, tardant beaucoup à arriver, je me suis demandé quelle était la façon d'avancer quand même. Et clairement, dans le monde moderne, et puis on a des sollicitations qui viennent de partout. Il faut savoir qu'on a régulièrement des mails qui viennent de toutes des régions du monde francophones qui sollicitent des formations sur le cheveu frisé crépus, que ce soit les Antilles, La Réunion, le Montréal. Enfin voilà, il y a plein de gens qui nous envoient des mails super gentils et qui voudraient absolument se former. Et donc je me suis dit comment je peux partager un savoir avec des gens qui sont pas forcément là. Donc évidemment, la plateforme digitale s'est imposée. Après, il faut la faire.
C'est ça.
Et donc, j'ai monté un projet avec trois autres associés, dont Clémence Mouillet-Moukouri, qui a beaucoup travaillé avec moi sur le sujet. Et on a essayé ensemble de faire naître cette plateforme digitale. Donc l'idée, c'était d'avoir un réservoir de vidéos qui puisse recenser l'ensemble des gestes techniques sur l'ensemble des boucles. Avec des astuces, des conseils, avec des interviews de coiffeurs, etc. Ça aurait été, voilà, on avait rêvé quelque chose d'un petit peu idéal. Et on voulait faire une partie payante, une partie gratuite. Enfin, essayer de trouver le modèle financier pour ça.
Ouais.
J'avais longuement discuté avec d'autres personnes qui avaient déjà essayé. Notamment avec des gens en Angleterre, avec Monsieur Texier, qui est un ancien directeur d'éducation de... je vais dire de bêtises, je sais plus si c'est Eugène Perma ou Schwarzkopf, je crois. Un monsieur très, très expérimenté qui a lui-même essayé de lancer sa propre plateforme de coiffure il y a quelques années. Et ça n'avait pas du tout fonctionné. Là, j'ai vu qu'il y a Générique avec monsieur Mocher qui a lancé sa plateforme Airflix. Mmh. Donc, on sent que c'est dans l'air.
C'est dans l'air.
Mais
toi, ça fait quand même quelques années.
Ouais, mais ça peine à aboutir parce que l'équation économique est difficile à trouver. Et puis après, il faut faire, c'est-à-dire qu'il faut constituer la fameuse bibliothèque de vidéos.
Ouais.
Et donc, j'ai essayé de construire vraiment un projet avec une levée de fonds. On est lauréat du prix Entreprendre, on a eu un prix aussi de l'incubateur Bondinov dans lequel on a travaillé plusieurs mois. Donc le début était très prometteur, on a beaucoup avancé. Et au moment où il fallait lever les fonds, on n'a pas réussi, tout simplement.
Ouais.
Alors, il faut être simple, en fait, dans la vie. Quand ça marche pas, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien.
D'accord.
Et je me suis dit, soit le projet n'est pas bon, Parce que si on n'arrive pas à convaincre, c'est qu'il manque un élément. C'est peut-être pas la bonne période. C'est peut-être pas la bonne façon de faire. Et puis, c'est peut-être, d'un point de vue personnel, c'est peut-être pas ma tasse de thé non plus. Parce que le monde du digital, c'est pas mon monde.
Ouais.
Et peut-être que je n'ai pas la bonne façon de l'aborder. J'ai peut-être une vision un petit peu trop ancienne ou un petit peu trop précise. Peut-être qu'il faut être plus fluide, plus flexible, plus agile. C'est peut-être un projet que quelqu'un de soit plus jeune, plus digital, native, peut mener. En tout cas, j'ai ressenti que moi, j'arrivais à un terme de ce que j'étais capable de proposer.
Ok.
Et donc, on a arrêté, tout simplement. Donc, on a... C'est pas un mauvais souvenir pour moi, parce que j'ai vraiment tout essayé.
Oui, je sais bien,
je suis allée
on en avait
au
parlé.
Bout de
hein.
ce que je peux faire.
Ouais.
Mais je pense que ça, c'est la limite de ce que je suis capable de faire. En tout cas, c'est pas là où je m'exprime le mieux, et je suis peut-être pas la bonne personne pour mener ce projet à terme. D'accord. Peut-être que ça viendra à un autre moment, d'une autre forme.
Ouais,
et peut-être
que
c'est le projet de quelqu'un d'autre, tout simplement. Donc, je regrette pas d'avoir essayé, parce que je pense que sinon, je m'en serais voulu de pas essayer.
C'est clair.
Mais ça prendra certainement une autre forme.
Oui, d'accord.
Je suis
d'accord.
Voilà. Pour moi, c'est évident que dans quelques années, il y a quelqu'un qui va le faire. C'est sûr. Et je lui souhaite de réussir.
Ouais,
parce qu'on en a besoin.
Oui, c'est clair.
Mais voilà, aller à des pitchs devant des investisseurs et dire des choses, et en particulier des prévisions de chiffre d'affaires, pour moi qui suis un peu scientifique, très bleu et rouge, c'est rouge, j'ai un peu du mal à vous garantir 10% de part de marché en un an. Je ne sais pas faire ça.
Ouais.
Je sais m'appuyer sur des choses réelles, mesurées, et sur du très concret.
Du concret.
Mais prévoir l'imprévisible, est-ce que vous êtes scalable? Je sais pas. Je peux vous dire que je ferai tout ce qu'il faut pour que ça marche, mais je peux pas vous promettre qu'il y aura ça. Et on est dans un monde quand même où, quand on voit les levées de fonds, il faut quand même arriver avec beaucoup d'assurance et promettre beaucoup de choses. Et moi, je sais pas comment on fait pour promettre ce genre de choses. Donc c'est pour ça que je dis, je suis peut-être pas la bonne personne pour faire ça, tout simplement.
Ouais. Malgré ton expérience, malgré.
Oui, mais parce que c'est un mode particulier. Les investisseurs, ils sont dans un mode particulier de « je vais investir, je veux récupérer mon argent dans 5 ans, je veux avoir doublé ma valorisation de part, etc. » Ils sont beaucoup dans l'aspect croissance économique et valorisation financière. Et autant, moi, je sais le faire sur quelque chose qui existe, autant pour moi, le digital, ça reste très flou et j'ai du mal à me projeter sur un chiffre d'affaires. Je peux espérer que ce soit ça, mais je ne peux pas le promettre.
Tu n'as pas de garantie.
Ouais, exactement. Et surtout que la formation en digital, c'est encore quelque chose qui est en plein essor. Et si on regarde bien, parce que du coup, je suis allée me renseigner beaucoup. Je suis allée écouter des colloques, des EduLab, des Cap Digital. Enfin, il y a plein d'acteurs de ce domaine qui sont absolument passionnants. Il y a beaucoup de choses qui se développent, mais c'est beaucoup de l'apprentissage intellectuel.
Ouais.
Moi, j'ai pas trouvé de plateforme qui enseigne la boucherie.
Ouais, d'accord, oui, bien sûr.
Donc, on trouve beaucoup de développement d'apprentissage digital sur des compétences, sur des soft skills et sur de l'apprentissage scolaire anglais, français, mathématiques, etc.
Ouais, classique, quoi.
Mais de l'apprentissage de gestes, il n'y en a pas beaucoup. Alors, je sais qu'il y a quelques réservoirs dans certaines sociétés qui ont développé ça en interne. Il y a des plateformes internes dans certaines franchises. Il existe deux plateformes en Angleterre, une aux États-Unis. Mais vous voyez, par rapport au monde entier, au marché que ça représente, il n'y a pas non plus des dizaines et des dizaines de plateformes de gestes techniques aujourd'hui. Donc, c'est peut-être l'écueil de ça. En tout cas, ça reste encore à construire. Voilà, je fais un appel à projet. Si parmi vous, il y a des gens qui ont envie de construire librairie de gestes de coiffure, il y a de la place.
Il y a de la place. Ouais, il y a de quoi faire. C'est sûr. Ouais. Et en tout cas, t'étais plutôt précurseur parce que ce projet, ça fait des années que tu l'as. C'était bien avant la pandémie et le développement de toutes ces plateformes justement qui permettent de faire de la visioconférence et des choses comme ça.
C'était... Oui, tout à fait. Oui. Parce qu'en fait, moi, j'ai réfléchi à partir de 2017 quand j'ai vu que le CQP était mis en suspens.
Le CQP, c'est quoi?
Donc, le certificat de qualification professionnelle, puisqu'il y avait un projet en cours de travail avec la commission paritaire coiffure et esthétique, et que les travaux ont été suspendus. Bon, je me suis dit, faut trouver un autre moyen, parce que le besoin de formation, il est toujours là. Donc j'ai commencé à y réfléchir et je me suis lancée. Ça devait être en mi-2018, je pense, qu'on a créé une société spécifique avec plein de pitchs, de préparation, enfin comme toutes les startups.
Beaucoup
de travail, beaucoup d'enquêtes et de réflexions et d'essais. Et puis au bout d'un moment, on est un petit peu comme une petite souris qui arrive devant un mur et qui dit je sais pas comment faire. Je sais pas comment faire.
Bon. En tout cas, t'es pas déçue.
Non, il faut être très simple dans la vie. C'est ce que je disais au départ, il faut être très simple. Si ça marche pas, c'est que soit je m'y prends mal, soit je suis pas la bonne personne, c'est pas grave.
Ouais, d'accord.
C'est pas grave. Il y a d'autres gens qui le feront et je suis sûre qu'ils le feront très bien. Et en fait, il y a une espèce de connexion. À un moment donné, il faut que les choses se correspondent. Quand on est prêt pour quelque chose et quand on a les compétences pour faire quelque chose, sauf accident, en général, on y arrive. Là, si ça bute, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fit pas.
Ouais.
Et donc, autant être simple, je vais pas me fouetter en me disant j'ai raté. C'est pas grave en fait. Autant c'est pas pour moi en fait.
Oui voilà
tout simplement. Du coup passons à autre chose.
Et alors si je te dis invisibilisation, autre gros dossier.
Alors par rapport à il y a 6 ans. Parce que maintenant, on peut commencer à...
Oui, on a du recul.
Les choses, quand même, changent beaucoup. On le voit, donc l'invisibilisation, c'est le concept, le fait qui permet de décrire qu'on oublie de tenir compte d'un certain nombre de personnes dans la sphère à la fois de la vie, de la société, la sphère politique, la sphère économique, dans l'éducation. On fait comme si ces gens n'étaient pas là. Pas forcément volontairement, c'est pas une mise au ban, mais c'est on oublie. Et donc clairement, les femmes à cheveux bouclés, frisés, crépus étaient invisibles dans le monde de la coiffure, et en particulier les femmes noires et les femmes métisses. Donc pour d'autres raisons, il y a des sous-jacences, un peu comme les poupées russes.
C'est ça.
Ce qui est clair, c'est qu'il y a des choses qui se sont passées qui font que là, on n'est plus tout à fait au même niveau d'invisibilisation. La première chose, c'est la publicité. C'est un signe extérieur qui montre l'évolution des choses. Parce que clairement, il n'y a pas une marque qui, à un moment donné, n'a pas mis soit une femme à cheveux frisés, soit plus précisément une femme noire dans une de ses publicités.
Oui, c'est vrai.
Ça a commencé par le luxe et ça a décliné partout. Donc aujourd'hui, on peut voir des publicités pour des banques et des sites internet et des réservations de billets de train, voitures, n'importe quoi. On a une personne noire, métisse, cheveux frisés.
On a une représentation.
On a une représentation et qui est déconnectée de ce qui était avant.
Oui.
C'est-à-dire, c'est...
C'est pas de la pub pour le chocolat ou le lait.
Exactement. Ou pour un truc à la banane.
Voilà.
Voilà. Ou à la noix de coco.
Voilà.
Donc, on a une désexotisation du process.
C'est vrai.
Et on a une banalisation de la représentation des personnes dans n'importe quel sujet de marketing ou d'affiche. Voilà. On commence à avoir une sensibilité un petit peu plus éveillée, je pense, les gens du marketing sur la représentation des gens. Ça, c'est une chose. Donc après, il y a des mouvements de balancier, forcément.
Évidemment.
Parce que il y a eu l'épisode, effectivement, du Black Lives Matter, où là, tout le monde met un écran noir, et les grandes marques disent, nous aussi.
Ouais.
Donc, c'est pas, je sais qu'il y a des personnes que ça agace. Moi, je regarde ça avec beaucoup de recul, et je me dis, c'est un balancier, et il reste toujours quelque chose de ces mouvements-là.
C'est ça. C'est ça.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, des grandes marques, des petites marques se disent « si je veux dire que moi aussi je suis inclusif, je vais faire attention. » Donc je mets cet écran noir sur mon LinkedIn ou mon Facebook ou mon Instagram, mais une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais ? Et il reste une petite trace quand même, une petite conscience. Donc c'est là où l'invisibilisation s'arrête, se diminue, c'est qu'on se dit « ah oui ». Il faut faire attention à ça.
Ouais.
Et donc, je pense que là, on avance petit à petit. Alors, c'est un petit peu comme le bio. Il y a du greenwashing, il y a du blackwashing.
Du blackwashing, clairement.
Il y a du prétexte.
Oui.
Mais pas que. Et ça contribue quand même à ce que ce sujet ne soit plus un sujet d'exception, mais soit un sujet qui est là, qui est régulier et auquel il faut faire attention. Et ensuite, alors plus concrètement sur la coiffure, là, ça, c'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'on a à la fois une explosion du nombre de marques. Nous, je vois, en tant que salon de coiffure un peu connu, on est sollicité, mais pratiquement une fois par semaine.
Ah oui, quand même.
Vraiment. Par une nouvelle marque qui se lance, qui veut qu'on teste leurs produits, etc. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'initiatives de petites marques, de personnes qui se lancent et dont certaines réussissent très bien, très vite. Voilà. Des pérennisations de marques moyennes. On a vu Le Secret de Loli là, qui explose et qui devient visible avec des spots, avec des affichages dans le métro. Donc, voilà, toutes ces sociétés sont en train de mûrir et d'accéder à un niveau de visibilité qui est très important. Et c'est normal, parce qu'ils étaient là il y a un moment déjà. Et ils travaillent bien. Donc ça avance bien. Et puis, ben, forcément, les grosses marques arrivent.
Oui.
Donc, quand on a un spot Kérastase, qui est quand même la marque emblématique de la coiffure de luxe, et qui envoie trois superbes mannequins avec trois chevelures frisées, très frisées, crépues, et qui dit que c'est de la grandeur, manifest your greatness, manifestez votre grandeur. Et soyez fiers de vos boucles, soyez fiers de vous-même, vous êtes belle. Voilà, on accède à des choses. Donc c'est une espèce de continuité à tous les échelons du marché, de ce message qui arrive, de les cheveux frisés existent, les femmes à cheveux frisés sont belles, et on va s'occuper d'elles.
Ouais.
Et ça c'est... voilà. Donc il y aura clairement, entre il y a 6 ans, où ça restait encore très confidentiel, et là maintenant, ça va devenir un sujet phare des gros blockbusters. Donc ça va changer. Je pense que dans 6 ans, si on se revoit, je pense qu'il y aura énormément de choses qui auront changé. Donc c'est très très bien. Donc ça devient un sujet. Et après, donc si on parle de dernier point dans cette atténuation de l'invisibilisation, c'est la formation, puisque du coup il y a deux choses qui sont, moi, des marqueurs de cette année. C'est la création du Real Campus by L'Oréal en janvier 2020. Donc, c'est une école c'est un CFA privé qui permet de préparer un bachelor de coiffure entrepreneuriat, en 2 ans et demi, 3 ans, en alternance. Et c'est un diplôme qui est en cours d'enregistrement. Donc, c'est un nouveau diplôme de coiffure.
OK.
Et qui a intégré en transversale la formation sur les cheveux bouclés, frisés, crépus.
Oui, formation qui n'existe pas cursus.
Voilà, il n'y en a pas en CAP, coiffure, il n'y en a pas en BP, voilà. Il n'y en a pas en BTS, il n'y en a pas en brevet de maîtrise. Ouais. Il y a, dans le bachelor, une formation bouclés, frisés, crépus en première année, en deuxième année, avec plusieurs intervenants, dont je suis. Et le but, c'est d'intégrer la capacité à développer des services sur des cheveux bouclés, frisés, crépus, et tous les services, couleur, balayage, etc., studio, enfin, tout ça. Donc là, maintenant, on peut dire qu'on a un diplôme qui intègre les cheveux bouclés, frisés, crépus dans son contenu, et complètement transversal.
Ouais.
Dès que les gens sont formés, ils ont la capacité à prendre n'importe quel modèle pour venir s'entraîner, que ce soit un modèle cheveux raides ou un modèle cheveux frisés, pour leurs entraînements autres.
Oui, voilà. Ouais, bien sûr.
Donc ça, c'est vraiment super. Et le deuxième point, c'est ce qui s'est passé avec Kérastase, puisque Kérastase a compris que pour lancer Curl Manifesto, il fallait former les coiffeurs, parce que sinon, ça resterait lettre morte. Et ils ont relevé le défi. J'ai eu la chance de les accompagner pendant plus d'un an et demi sur le contenu de formation, pour les aider à construire les modules de formation, à former leurs équipes en interne pour comprendre l'enjeu. Et ça s'est très très bien passé et ça donne un succès retentissant, puisque je crois que la ligne Curl Manifesto a battu tous les records à l'intérieur de Kérastase même. C'est un des plus gros lancements qu'ils aient fait. Ils sont déjà en rupture.
Ah oui, quand même.
Et c'est mondial.
Ouais. Ah oui, ok. Donc il y avait un vrai... C'est la preuve qu'il y avait un vrai besoin, un vrai marché, quoi.
Exactement, exactement. Et moi, ça m'a donné l'occasion, puisque donc, j'ai fait des séminaires en interne pour former les éducateurs. J'ai du coup pu rencontrer en vrai, enfin en visio, mais en vrai...
Par écran interposé.
Voilà. Les États-Unis, le Canada, l'Égypte, la Suisse, la Bulgarie, la Russie, le Portugal, le Brésil. Enfin voilà, c'était un truc incroyable. J'ai passé 6 mois à faire des visios tout le temps avec toutes les équipes. Et j'ai constaté que, effectivement, l'approche de la boucle était encore très balbutiante parce qu'il y avait, en gros, la boucle, d'accord, mais on fait des brushings.
Oui, c'est ça.
L'ancienne façon de faire.
Ouais.
Et que, du coup, l'appétence et l'enthousiasme autour du coiffage des cheveux bouclés frais et crépus était énorme. Et que tout le monde ne demandait qu'à apprendre et qu'à chaque fois, bien accompagné avec les bonnes formations, les lancements étaient des gros succès.
Mmh, mmh.
Donc ça, c'est super parce que ce sont des marqueurs forts pour moi.
C'est ça, ouais, ouais, bien sûr.
C'est-à-dire qu'il y a un avant et il y a un après. Mmh. Maintenant, en France, on peut apprendre, on peut passer un diplôme de coiffure avec un contenu cheveux frisés et crépus qui est reconnu. Et puis, des coiffeurs, quand on leur amène des formations qualitatives, ils ont très envie d'apprendre et
bien
ça
sûr.
Se passe très bien. Et ça, c'est des expériences extraordinaires qui confortent ce que je savais, mais c'est mieux que je ne sois pas la seule à le penser, en fait.
C'est sûr.
donc, c'est super. Et ça va contribuer à faire que, justement, la boucle ne soit plus l'exception, mais ce soit un service comme un autre dans le salon. Et que les coiffeurs puissent dire, oui, je vous accueille, oui, j'ai du plaisir à vous coiffer, et je m'éclate dans mon métier sur des cheveux frisés, ce qui est absolument génial. Donc c'est énorme ce qui est en train de se passer.
Ouais, ouais.
Si on regarde toute l'année 2021, du coup, puisque là le lancement c'était 2021, mais 2020 en intégrant l'ouverture de Real Campus, ce qui se passe est vraiment énorme.
Mmh.
Et je suis très 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 contente de ça. Ça,
ouais,
ça va continuer.
J'imagine. Ouais. Ouais.
C'est juste quelques anecdotes parce que ça me vient en parlant. C'est un coiffeur, 30 ans d'expérience, qui vient me voir au 3e jour de formation, presque les larmes aux yeux. Aude, c'est extraordinaire. Je viens de comprendre, je m'aperçois que ce cheveu est magique. Et j'avais pas compris avant et je m'éclate et c'est génial. Et en fait, t'as raison. C'est pas si compliqué. Et en plus, la modèle, elle m'a dit merci.
Oui, c'est bon signe.
Non,
elle était contente.
Oui, parce qu'en fait, modèle, c'est pas facile. Hein. Il y a beaucoup de gens autour. Il y a beaucoup de bruit. Mais j'essaye d'insuffler aussi dans tous les apprenants un profond respect pour chaque personne. Et comme dit Vernon François, tenderness, love and care. Donc de l'amour pour les gens, pour les cheveux. Aimer son métier, le transmettre, donner. Et il y a un retour qui se passe et qui est énorme.
Ouais.
Quand vous avez une modèle qui vous dit merci d'apprendre à vous occuper de mes cheveux, on est super ému, on est super embarrassé. Et nous, on dit merci de nous laisser apprendre sur vos cheveux. Ouais. Et il y a plein d'élèves coiffeurs ou de coiffeurs adultes qui sont venus me voir en me disant oh, c'est fabuleux.
Oui, parce que c'est une formation qui accueille des coiffeurs qui sont souvent coiffeurs depuis des années.
Oui. Et que ce soit donc dans les formations Kérastase ou avec le Real Campus, il y a plein de profils. Et il y a des gens qui sont en reconversion, donc ils ont un regard plus neutre, mais des gens qui ont travaillé déjà la coiffure et qui souvent, alors c'est fascinant à voir, hein, premier jour, ils sont à 2 mètres.
Genre, ouh, qu'est-ce que
Mon
c'est
Dieu, elle me dit qu'il faut que j'y aille, mais je vais pas y arriver.
Je
en
sais
fait.
Pas faire.
Elle me dit que c'est simple, elle est gentille, hein, mais en fait, j'ai très très peur. Premier contact, premier après-midi, il voit que voilà, il faut installer les gestes. C'est sûr qu'il y a quelques gestes clés et que si on les fait pas, on va dans le mur. Mais si on les fait, ça se passe très bien. Et premier après-midi, découverte. Deuxième, on commence à s'approprier. Troisième, et vraiment, c'est presque comme si je le voyais, le coiffeur ou la coiffeuse connecte ce qu'il vient de comprendre de ce cheveu-là avec tout ce qu'il sait déjà.
Mmh.
Et là, il y a la personne qui arrive et qui me dit « Mais quand je fais tel geste sur des cheveux raides, souvent je fais comme ça. Tu penses que je peux le faire aussi sur les cheveux frisés ?» Je dis « Oui, bien évidemment, parce que tu as tout à fait compris là, le ressort, le changement de forme, la versatilité. Et là, tu es en train d'adapter ton savoir à une nouvelle matière. » Et ça fait clic, et après, c'est waouh.
Ouais. Mmh.
Parce que le coiffeur ou la coiffeuse, il sait déjà énormément
oui,
de choses.
Oui, il connaît le cheveu.
Il connaît beaucoup de choses.
Ouais.
Il a une logique de la géométrie.
Bien sûr.
Il a une logique du placement. il a un amour de son métier.
Aussi.
Et donc, tout d'un coup, il découvre une nouvelle matière et passé les premières heures d'acclimatation, ben, il découvre qu'il peut utiliser tout ce qu'il sait en l'ajustant. Un peu comme un tailleur qui changerait de tissu.
Oui.
Ça reste un tailleur.
Oui, voilà.
Mais il va travailler son tissu différemment parce que le tombant n'est pas le même, etc., etc. Et une fois qu'on a enlevé cette peur, enlevé cette appréhension et le fait qu'il ne sait pas par quel bout s'y prendre, et surtout que s'il applique les gestes qu'il a appris sur cheveux raides directement sur cheveux frisés, ça ne se passera pas du tout bien.
Oui, d'accord.
Donc une fois qu'on a déconstruit deux, trois choses et réinstallé des gestes de simples, ben le coiffeur, il a toujours son savoir, il est toujours là en fait, et il sait énormément de choses. Oui. Donc il faut juste reconnecter les éléments, et ça fonctionne très très bien. Et ça donne des gens qui me disent, mais Aude, c'est génial. En fait, c'est un cheveu magique, on peut tout faire avec. Et maintenant que je sais comment le manipuler, en fait, ça libère ma créativité et je vais pouvoir faire plein de choses. Oui. Et il retrouve le plaisir.
C'est
et
ça.
Ça, c'est génial. Et ça se sent, et moi je le vois à Studio Anna, on forme nos propres équipes, donc on accueille des gens régulièrement qui sont issus de plein d'origines différentes, d'origines de coiffure différentes. Ouais. Et ceux qui viennent des écoles de coiffure, qui ont un parcours
classique,
généraliste,
académique,
en général, au début ils ont un peu peur, mais après ils se régalent. Ils se régalent, parce qu'en plus il y a une grande, très grande liberté et une très grande versatilité. Donc ça me conforte dans l'idée. Que par rapport à ce qu'on a pu me dire au début, que non, un coiffeur ne veut pas apprendre, etc., ou tu ne pourras pas les faire bouger.
Tu vas perdre ton temps.
Exactement. Ben, en fait, c'est faux.
Ouais.
Et les coiffeurs et coiffeuses qui aiment leur métier, qui ont toujours la passion du cheveu, ben, ils peuvent vraiment se régaler sur cheveux frisés. Ça marche vraiment. Et donc, tout va bien, en fait.
Ouais. Tout va bien.
Non, mais c'est important parce qu'il y a eu tellement au début de choses qui m'ont été opposées en me disant « Mais non, 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 c'est une espèce de statu quo. »
Oui, 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 bien sûr.
Il y a les autres, voilà. Il y a les autres cheveux.
Ouais.
Et puis, de toute façon, voilà, les coiffeurs, ils n'aiment pas apprendre. Enfin, il y a plein, plein de choses qui circulent, qui sont négatives. Et en fait, non, 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 pas du tout.
Il suffisait juste qu'ils aient la bonne formation, en fait, qu'on leur propose une vraie formation, c'est
exactement.
Ça, en fait.
Exactement. Ouais. Exactement. C'est une question d'opportunité et d'occasion d'apprendre. Et ça, je l'ai pas mal dit, mais j'ai dit, moi, je veux pas forcer les gens à apprendre quoi que ce soit, mais je veux qu'ils aient la chance d'apprendre s'ils en ont envie.
Bien sûr.
Et là, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas. Là, maintenant, il commence à y avoir un petit peu plus. Ça reste sur des initiatives privées. Ça, je trouve ça toujours dommage.
C'est sûr.
Mais s'il faut plus de temps, ben, il faut plus de temps. Voilà. Tant pis.
Tant pis.
Mais ça fait la démonstration que quand on amène quelque chose de qualitatif, les gens, ils ont envie d'apprendre.
Ouais, bien sûr.
Et ça se passe très bien. Et ça se passe très bien partout. J'ai fait une formation en juillet. On a fait un pilote sur une formation cheveux bouclés, frisés, crépus, donc à Rille Campus, avec des coiffeurs de Quimper, de Lorient, de Reims, qui m'ont tous envoyé une petite photo un mois après en me disant « Regarde, Aude, regarde, j'ai fait mon premier rituel de soins sur un cheveu bouclé. » Et ils ont réussi à l'implémenter dans leur salon.
Ouais, ça
aussi.
C'est bien, aussi, ouais.
Donc ça fonctionne.
Ouais,
donc on est sûr, proportionnellement, on n'a pas du tout le pourcentage de gens qu'il faut pour adresser les besoins, mais...
On est au début de quelque chose.
On est au début de quelque chose et on est en train de faire la preuve que quand on forme bien, ça fonctionne.
Voilà, tout simplement.
Et ça, c'est ça qui est le plus important. Donc, moi, je regarde là les deux années écoulées, 2020-2021, avec un très fort optimisme. Parce que même si d'un point de vue structurel, dans l'organisation des diplômes, etc., ça ne suit pas, les gens sont là, ceux qui ont envie d'apprendre, ils sont là, et on est en train de, petit à petit, les choses se font. Moi, je lui dis qu'à chaque fois qu'il y a une personne qui a été formée, que ce soit un élève ou un coiffeur en exercice, qui a été formé, et qui va dire autour de lui, non mais attends, c'est génial.
Tu devrais essayer, c'est génial, ouais.
Mais en fait, c'est top. Mais non, pas du tout. En fait, ils sont pas du tout. En fait, ils sont pas du tout rebelles. En fait, ils sont pas du tout indisciplinés. C'est juste que il faut pas les coiffer de cette façon-là. Et puis, avec de l'hydratation, ça marche. Et ben, voilà. Il y aura 40 personnes dans son cercle de proches qui va entendre parler de ça. Et puis, petit à petit,
on
y arrivera
tout
doucement. Voilà, exactement.
Ouais. Et si je te dis marché de niche, c'est un peu dans le prolongement de ce qu'on vient de...
Vu ce qu'on vient de se dire.
Je
pense que si Kérastase s'était dit, ils ne se le sont pas dit, mais si qui que ce soit avait besoin de la preuve, on l'a sous les yeux. Le lancement Curl Manifesto de Kérastase a explosé tous les records.
Ouais, c'est ça, c'est ce que tu disais.
Vraiment, ils sont en rupture.
C'était attendu.
Voilà, donc c'est tout. Il n'y a rien à dire, en fait. Il n'y a rien à dire. Deuxième chose, les secrets de Loli a passé la barre des 10 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Ouais, vrai.
Donc, et il y en a d'autres comme ça.
Ouais. Bah, il y a beaucoup en ce moment de petites marques qui se
parlent dans tous les sens, mais ils ne sont pas toutes à 10 millions d'euros.
Bon, d'accord.
C'est vraiment un achèvement.
Ouais.
On n'est plus en train de parler d'une mini-marque ou d'une initiative personnelle. On parle d'une vraie marque avec une assise. C'est pas du tout. C'était une niche parce que les gens étaient invisibles.
Oui, voilà.
Parce qu'ils ne venaient pas en salon.
Ouais, exactement.
C'est tout. À partir du moment où on a des chiffres, et qu'on peut regarder la progression de part de marché, tout simplement, ben on voit bien que ce n'est pas une niche du tout. Et, et c'est vrai partout. Je vous donne j'ai vu deux choses là. Tiens, j'en ai vu une ce matin. Deux choses. En Égypte. En Égypte, il n'y a pas de formation sur la boucle. Pourtant, les cheveux sont frisés.
Les cheveux sont frisés, bouclés.
Alors, les coiffeurs égyptiens sont connus pour être les experts de super pros du brushing.
Bah oui.
Et c'est vrai qu'en général, ils sont pratiquement imbattables.
Tout le Middle East, d'ailleurs.
Exactement. Ah oui, il y a le Liban.
Je vois sur Instagram régulièrement des posts où ils vous montrent des cheveux lissés, brillants comme
tiennent,
des miroirs.
Voilà, les brushing tiennent. C'est absolument génial. Ce sont des très grands experts. Mais il n'y a pas de service de cheveux bouclés. Et donc, ben, il se passe la même chose qui s'est passée ici, c'est-à-dire qu'il y a une influenceuse qui a ouvert un salon de soins coiffage dédié à la boucle.
Ouais.
Et j'ai vu ce matin qu'il y avait un premier salon en Tunisie qui s'appelle le Pineapple Studio.
J'ai vu ça aussi.
Qui s'est ouvert sur le même positionnement.
Ouais. Donc ça va faire boule de neige.
Exactement. Vous avez Tribu Urbaine, qui est un salon à Genève, qui s'est lancé, alors je n'ai pas suivi l'historique, mais je l'ai suivi, je pense que ça doit faire 2 ou 3 ans, qui est à son deuxième salon et qui a le projet d'en ouvrir 2 autres. Donc Genève, Lausanne, Berne, etc. etc. Moi, j'ai été contactée par une personne qui a ouvert un salon au Maroc. Nathalie Gouy-Fedimo, qui a ouvert un salon dédié aux cheveux crépus naturels à Douala, au Cameroun.
Ah oui, j'ai vu passer cette info, c'est peut-être toi qui a passé l'info.
Qui est en train de très bien réussir aussi. Donc, le mouvement de la boucle, il est mondial. Et s'il y avait ce n'était qu'une niche parce que c'était invisibilisé.
Ouais, c'est ça.
À partir du moment où on offre quelque chose, on voit arriver les clients. Et donc, en fait, ce marché, il est énorme.
Oui, c'est clair.
Énorme. Mais à un point qu'on n'imagine pas
encore.
C'est vraiment la même pas la pointe de l'iceberg, là. C'est le glaçon de l'iceberg. C'est le petit cube. Dessous, c'est énorme. Et donc, je pense que, voilà, dans 6 ans, ça sera, ou dans 10 ans, la donne aura complètement changé. Et donc, le mouvement est lancé.
C'est plutôt encourageant.
Complètement. C'est sûr. Et puis, moi, je vois dans les élèves que je croise dans les écoles de coiffure quand j'interviens, il y a beaucoup de gens qui ont envie de se lancer. Alors, aussi parce que la visibilisation, du coup, a fait que la boucle a gagné ses lettres de noblesse et que ce n'est plus un cheveu pas coiffé.
Oui, voilà, c'est ça.
Donc, à partir du moment où on associe une valorisation positive à cette image et qu'on montre que c'est une coiffure à part entière, technique, sur laquelle on peut développer une expertise, les élèves se projettent se disent « moi aussi, j'ai envie de faire ces textures de cheveux et j'ai envie de m'éclater, j'ai envie de faire comme Vernon François ou Lisa Farrall et j'ai envie de faire de la créa à fond. » Donc, il y a une demande qui va grandir. Plus ça fait boule de neige, plus on va avoir une mise en visibilité de ces beautés, plus ça va attirer aussi des jeunes créatifs qui ont envie de se lancer là-dessus. Donc tout va bien.
Tout va bien.
On est sur la bonne voie.
Génial. Merci beaucoup, Aude.
Non, de rien, avec grand plaisir.
J'étais ravie de te revoir, de te redonner la parole.
Merci à toi de la donner. Puis avec un peu de temps, ça fait du bien.
Oui, clairement.
Il y a tellement de choses. Merci à toi et bravo pour ton très beau succès. Toi aussi, c'est une visionnaire.
Écoute, à ma façon, oui. À très vite.
Merci et bonne journée.
Bonne journée à toi aussi. Au revoir.
C'est déjà terminé, le temps passe si vite. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, pensez à nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts ou sur la plateforme d'écoute de votre choix. Et puis, parlez de Beauty Toaster à au moins deux personnes de votre entourage. Ça m'aiderait énormément. Enfin, n'oubliez pas, désormais, on se retrouve tous les vendredis, première heure. Alors, à la semaine prochaine !